Bonjour, bonjour, c'est Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry sur 89.4 FM. Et d'habitude, c'est la semaine des rediffusions. Mais cette semaine, pour pouvoir passer le son dans toute son entièreté, je diffuse l'émission qu'ont fait les CM2 de l'école Langevin lorsqu'ils ont interrogé les deux acrobates du spectacle Nathan Longtemps à la suite de leur performance. Voilà. Après cette interview qui dure 25 minutes, nous écouterons Pascal Loquin dans Chansons pour de frire. Puis, nous reviendrons aux origines du direct sur Radio Cartable avec Philippe Condomine en 1992. C'était le premier direct. Ça dure 13 minutes. C'est assez intéressant et drôle de l'écouter. L'exercice n'a pas changé. Par contre, je vous laisse juger pour savoir si l'humour, lui, est daté. On écoutera ensuite Gulli verte d'Anne Sylvestre, puis une visite au Fort d'Ivry en 2016. Et on terminera par Manique avec Marmantine. Bonne écoute.
Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse.
Bonjour, nous sommes la classe des CM2A de l'école Paul Langevin. Nous sommes heureux de vous présenter le deuxième spectacle des petits correspondants du théâtre.
Jeudi 24 novembre 2022, nous sommes allés voir le spectacle Nathan Longtemps. C'est un spectacle acrobatique, c'est-à-dire qu'il y a des comédiens qui font des figures avec leur corps.
Dans ce spectacle jouent deux acrobates, Maude Bouchat et Daniello Alvino. Nathan est un petit garçon de 5 ans qui vit avec sa maman. Ce qui est drôle, c'est que Maude joue le personnage de Nathan, Daniello le personnage de la maman. Sa maman a une maladie, elle est narcoleptique. C'est-à-dire qu'elle s'endort n'importe quand et dans des endroits inappropriés.
Nathan adore être le premier. Il court tout le temps, il adore ses baskets. Un jour, sa maman ne vient pas le chercher à l'école. C'est alors que Nathan part à sa recherche.
Nous avons pu interroger les membres de la troupe au bord du plateau. À la fin du spectacle...
Je suis Hayden. La première question est pour le metteur en scène. Comment fait-on pour adapter un roman en pièce du théâtre? Et est-ce difficile?
Bonjour, je m'appelle Maude, donc je joue dans le spectacle Nathan Longtemps. Alors, pour répondre à la question... Comment fait-on pour adapter un roman en pièce de théâtre? Donc là, pour Nathan Longtemps, c'est pas le cas. C'était une commande d'écriture. Donc c'est-à-dire que l'auteur, donc celui qui a écrit le spectacle, a écrit tout de suite une pièce de théâtre. Il n'a pas écrit d'abord un roman qui a été adapté.
Mon papa, je l'ai jamais vu, juste en photo. Mais je sais qu'il travaille dans une boutique de sandwich aux États-Unis. Alors chaque fois que je suis triste en pensant à lui, maman me dit:
ne t'inquiète pas, mon chéri. On garde la frite dans cette baraque. Même si c'est pas la folie, on garde la frite. Oui?
Maman travaille dans un grand magasin de jouets pour gagner des sous. C'est un peu difficile pour elle, parce qu'elle a une grande maladie.
On garde la frite. On garde la frite, oui.
La maladie du sommeil.
Quoi qu'il arrive, la frite! La frite, la frite.
Avant, maman s'endormait tout le temps.
La frite, la frite, la frite, la frite.
À n'importe quel moment. À la piscine, elle ronflait sous les douches en faisant de l'apnée. Au supermarché, elle se couchait la tête dans les citrons et elle piquait du nez.
Je suis Juliane. Deuxième question. Pourquoi avoir choisi de parler de la narcolepsie ?
Bonjour, je suis Danilo et je joue aussi avec Maud dans la pièce Nathan Longtemps. Alors, pourquoi choisir la narcolepsie ? Il s'agit d'une maladie assez rare, mais d'une maladie qui existe. Et du coup, au théâtre, on a aussi les rôles souvent de sensibiliser les personnes à des réalités. Et du coup, pourquoi la narcolepsie et pas une autre maladie ? Ça, on peut trouver plein de réponses. Par exemple, parce que ça peut être, c'est quand même une maladie qui donne des outils assez drôles. En fait, s'endormir, c'est quelque chose qui peut être drôle. Et du coup, on pourrait parler dans ce cas-là d'un sujet assez sensible et grave à la fois, d'une façon assez drôle.
La narcolepsie, ça dure à vie ou ça peut se guérir rapidement ?
Je crois que c'est une maladie qui est bien ancrée une fois qu'elle est là, mais qui se soigne avec des médicaments, enfin qui permet d'être combattue grâce aux médicaments, me semble-t-il.
Aujourd'hui, la maîtresse nous a demandé ce qu'on voulait faire comme métier quand on sera grand. Tu sais ce que j'ai répondu ?
Non, mon chéri.
Maman ! Quand je serai grand, je veux faire maman !
C'est un métier très difficile.
Oui, mais au moins, je pourrai bien m'occuper de toi. Et puis, je resterai à la maison pour t'aider à préparer les crêpes du lundi.
Mais je suis très bien coiffée ! Cache-cache !
Bonjour, je me présente, je m'appelle Alice. Question 3. Pourquoi avoir choisi un homme pour interpréter un personnage féminin et une femme pour un personnage masculin ?
Eh bien, peut-être que... moi, je pense que c'est en premier pour faire travailler l'imaginaire et s'inventer des mondes, ce qui me semble très important pour développer la pensée. Et aussi, quand on lit histoire ou qu'on regarde un dessin animé, que par exemple le héros est un petit garçon, les petits garçons vont plus facilement pouvoir se dire « Ah mais c'est moi » ou se mettre à la place d'eux, et les petites filles peut-être un tout petit peu moins parce que c'est l'histoire d'un petit garçon. Or là, comme c'est moi qui joue un petit garçon, les petits garçons peuvent s'imaginer être Nathan parce que c'est l'histoire d'un petit garçon, mais les filles aussi parce que c'est une fille qui joue le petit garçon, et pareil pour la maman. Et donc voilà, il me semble que c'est ça, que c'est pour ça.
Je m'appelle Estelle. Comment devient-on circassien ?
Alors en fait, aujourd'hui on peut devenir des circassiens même si on n'est pas d'une famille de circassiens traditionnels. Et il existe plusieurs écoles de cirque, amateurs, professionnels et supérieurs. Et du coup, en fait, on peut commencer à prendre des cours comme on pourrait prendre des cours de danse plutôt que jouer dans une équipe de foot. On commence par jeu. Et en faisant ça, en fait, on commence à s'entraîner, on commence à apprendre des choses. Et du coup... tu établis un parcours et tu commences à les suivre. Bien sûr, c'est en question de travail et des sacrifices parce que ce n'est pas évident, ni pour apprendre, ni pour s'affirmer dans le monde du travail, du cirque. Mais si on veut les faire avec de la volonté, de la passion et du travail, on peut les faire. Du coup, moi, par exemple, j'ai commencé dans une école amateur. J'ai du coup choisi à un moment d'essayer de faire du cirque ma vie et j'ai tenté des auditions dans une école professionnelle et dans une école supérieure après. Et en faisant ces parcours-là, je me suis retrouvé avec des compétences qui font que je puisse travailler en faisant du cirque.
Je me présente. Je suis Macha. Cinquième question pour Danilo. Pourquoi avoir choisi l'échelle comme agrès ?
Pourquoi avoir choisi l'échelle? Bah, c'est une réponse assez personnelle déjà. Et dans le cirque, souvent, on utilise et on travaille avec des agrès. Qu'est-ce que c'est un agrès de cirque? C'est un outil, un objet avec lequel on puisse évoluer. Même un acrobat, il ne travaille pas forcément. Un acrobat, il travaille à corps libre, sans agrès, mais sinon, souvent, on a un agrès avec nous, que c'est un peu notre partenaire. Moi, j'ai choisi l'échelle parce que quand j'ai commencé, tout le monde autour de moi était déjà très, très, très fort avec ce qu'il faisait. Il y avait des jongleurs super forts, des personnes à la roussière très fortes, des personnes au machinois. Et du coup, j'étais un peu timide parce que là, je venais de commencer et je n'avais pas les capacités des autres. Et personne ne faisait l'échelle. Et c'était dans un petit coin de l'école, du coup je pouvais me mettre dans mon petit coin et travailler devant les murs sans prendre trop l'attention et sans faire voir aux autres que j'étais pas au même niveau, quoi. Et en plus, ça m'a tout de suite pris l'échelle parce que l'objectif est assez clair. En fait, on veut monter à l'échelle de plus en plus haut. Et c'est un objectif évident devant nous. En plus, c'est un agrès, l'échelle, qui est quotidien. Tout le monde connaît et reconnaît une échelle, à différence des autres agrès qui sont un peu plus abstraits. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Et du coup, voilà, mon objectif, c'était d'arriver tout haut sur cette échelle. Et petit à petit, j'ai réussi, quoi.
Est-ce que l'échelle, c'est une échelle que tout le monde peut utiliser ou acheter dans des magasins, ou c'est une échelle faite exprès pour le spectacle?
Alors, on peut dire qu'on peut rester en équilibre sur toutes les échelles, mais c'est là, si nous on veut dépasser, on va dire, un certain niveau, on a besoin d'une échelle qui est faite sur mesure. Du coup, on peut bien sûr acheter dans des magasins exprès de cirque une échelle ou des échelles, mais pour faire ce que j'ai fait, par exemple, je nécessite certaines mesures qui soient assez précises. Du coup, j'ai pris ces mesures à la maison, j'ai fait un projet tout seul et je suis allé chez un soudeur pour faire construire mon échelle à moi. Du coup, voilà, c'est pas tant l'agrès c'est pas tant des mesures qui font qu'elle reste plus en équilibre au moins en équilibre, c'est plutôt pour, par exemple, passer au milieu, passer dans la fenêtre, pour attraper à des certains niveaux les barreaux. En fait, c'est pour ça qu'on va prendre des mesures.
Mais pas compter les moutons.
Elle ne pense qu'à ne pas dormir. Elle ne veut surtout pas dormir pour ne pas m'oublier. Pic, marmotte.
Mange, lapin.
L'école, 4h30.
J'arrive, Nathan.
Et la maladie est plus forte. Bip, marmotte.
Mon lapin.
L'école, 4h30.
J'arrive. Nathan.
Et sans ces médicaments, elle ne peut rien. Bip, marmotte.
Mon lapin.
Bip, marmotte. Bip, école. Bip, marmotte. Bip, 4h30. Bip, marmotte. Bip, carte bleue. Bip, marmotte. Bip, mouton. Bip, marmotte. Bip, ticket. Bip, marmotte. Bip, monnaie. Bip, marmotte. Bip, marmotte. Bip, marmotte. Bip.
Il y a la main des clients qui achètent des marmottes ici.
Et pourquoi la forme du plateau et l'endroit, au lieu d'être dans les gradins, a été fait ainsi?
Ben, très bonne question, parce que vous voyez, là, c'est un dispositif assez particulier. Ça s'appelle du bifrontal, parce que, en fait, le public est sur les deux côtés. Et déjà, ça, c'est une nouveauté, entre guillemets, et c'est quelque chose qui vous permet de regarder un spectacle d'une façon différente, parce que devant vous, vous pouvez voir les autres personnes du public, les autres enfants. Et en plus, en faisant ça, vous êtes sur la scène, qui n'est pas souvent le cas quand on va voir un spectacle, et c'est quelque chose d'assez particulier. Et ça donne aussi, en fait, le public est assez proche de la scène. Et ça donne aussi du valeur à nos agrès, à l'échelle, à l'auteur de l'échelle. Parce que si vous étiez plus loin, peut-être que ça aurait été moins impressionnant voir quelqu'un monter à l'échelle. Mais vous, que vous êtes très, 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 très proche de nous, ça prend du valeur.
Pour les décors, pourquoi avoir choisi ces motifs sur le sol et puis sur les côtés, ces parois?
Alors, la scénographie que tu vois a été pensée et construite par un scénographe. Et en fait, quand cette scénographe qui s'appelle Cola, il a commencé à travailler sur cette scénographie, il savait qu'on allait travailler avec des échelles. Du coup, il a pensé et il s'est dit, ah, mais vous, que l'échelle est une agrès assez linéaire, qui est fait de lignes, quoi. On pourrait reprendre cette thématique-là et donner, du coup, comme ça, une ambiance à cette scénographie qui va avec la forme de l'échelle. Et en plus, en fait, dans le spectacle, vous voyez, on passe de l'école au magasin de jouets, à la maison de Nathan, et chaque côté représente un lieu. On a l'école, on a la maison, on a les magasins de jouets, et ce qui est au milieu, en fait, c'est la route. C'est la route qui sépare ces deux endroits. Et du coup, l'effet de voir toutes ces lignes comme ça, avec des cercles et des ronds-points, ça fait penser aussi à une carte.
Questo bambino da solo al buio che sta pure piangendo senza che nessuno se lo guardi. Ma dico io, la maestra, bidella, ma qualcuno se la guarderà questo povero ragazzo? Non è possibile che ancora ci dimentichiamo i bambini da soli al buio che piangono. Mia nonna, la buon'anima, non avrebbe mai permesso una cosa del genere. E mo, indovinate un po' chi si dovrà guardare questo povero bambino? Io. Oh, Nathan. Bah alors, tu prends pas ton goûter?
Cette voix, c'est Paco, un animateur de l'école. Paco, il ressemble un peu à mon papa, celui que je vois sur les photos. Il me fait m'asseoir sur ses genoux et je mange le petit gâteau qu'il me donne. Tu sais, Paco, maman, elle a changé de sac ce matin. Mais moi, je préférais celui d'avant parce que les docteurs, ils disent toujours trois fois par jour. Et en plus, mourir, c'est comme dormir. Et aujourd'hui, on devait faire les courses et s'acheter des œufs. Sinon, maman, elle pourra plus se laver les cheveux et j'aurais pas de crème le mardi matin. À cause de la morve qui coule sur ma bouche, Paco ne comprend rien à ce que je dis. Mais il voit que je suis triste.
Séchez-vous-là, mon petit compagnon. Et attachez votre ceinture. Nous allons faire un tour dans l'hélicoptère.
L'hélicoptère?
Oh non. L'hélicoptère. C'est parti. Ici, capitaine Paco.
Et autre question sur votre maillot, le cygne, il représente quoi et pourquoi ces habits, pourquoi là ce genre de costume?
Alors, moi sur mon t-shirt, j'ai un petit écusson avec une marmotte dessinée dessus et parce que la maman s'endort et il y a des marmottes qui font une montagne au-dessus de sa tête. Et ça, en fait, c'est l'auteur, donc celui qui a écrit le texte, qui a mis plein de petits jeux de mots dans cette pièce. Donc, il a choisi la marmotte comme animal parce qu'il y a l'expression « dormir comme une marmotte ». Et il y en a plein comme ça, des petites choses dans le spectacle. Et puis, alors, les costumes. Donc, moi, j'ai un maillot de foot avec écrit « Nathan » derrière. Et parce que c'est un petit garçon qui aime bien courir vite, et le costumier s'est dit, bah tiens, on va lui mettre un maillot de foot. Et comme, comme c'est joué par une fille, on dépasse un peu juste, bah c'est un petit garçon qui joue au foot, mais bon, c'est joué par une fille. Du coup, on ouvre un petit peu l'imaginaire, quoi.
Est-ce que c'est dur, quand on a plusieurs vêtements, de très vite les détacher et de ensuite très vite les rattacher?
Alors sûrement il y a des questions techniques aussi à préparer. Du coup, en fait, je pense bien avec quel bras je vais enlever mon t-shirt, avec quel bras je vais à prendre ma veste, par exemple, mais je ne pourrais pas te dire que c'est dur. Pour moi, c'est amusant, en fait, parce que ça me permet d'échanger d'une silhouette à l'autre assez rapidement.
Le directeur de l'école me voit seul et il m'emmène dans son bureau avec des horloges partout.
Dis donc, mais qu'est-ce qu'elle fait, ta mère ?
Maman dort dans les citrons sous la douche, dans les chaussures, sans ses médicaments, elle dort tout le temps. Dis, est-ce que Paco peut revenir me chercher et me déposer à la maison pour que je vérifie si maman va bien ? Le directeur ne répond pas, mais il prend un gros cahier avec tous les numéros, même celui du père de Noël. Mais c'est celui de ma mère qu'il cherche.
Trouvé ! Le téléphone portable ? 1, 2, 3. Personne.
Mais il ne comprend pas.
Les papiers alors ? 1, 2, 3. Personne, déchet, personne.
Il ne comprend pas que c'est moi qui dois sauver ma mère.
Le père peut-être ? Viendre, ça va nous coûter cher.
Alors qu'il tourne les pages, je me penche doucement vers mes baskets.
Les massachaussettes en plus.
Je serre bien fort mes lacets.
1, 2, 3. Personne, déchet, nobody at all.
Et au moment même où le directeur raccroche, je pousse la porte de son bureau et cours à toutes jambes.
Paco, il est quoi dans l'histoire ? Parce que ça veut dire que dans l'histoire, on avait dit que Paco, il ressemblait un peu au père de Nathan. Et du coup, bah, c'est quoi ? C'est qui pour eux dans l'histoire ?
C'est qui Paco ?
Et ben donc, Paco, c'est un animateur de l'école et il s'avère qu'il ressemble un petit peu au papa. Et je sais pas si tu te souviens, à la fin, Paco, donc, il vient chercher Nathan avec la maman, ils sont tous les deux dans le camion, et puis à la fin la maman, elle dit que Paco a les clés de la maison, qu'il vient souvent à la maison pour jouer avec Nathan et qu'il apprend l'italien, parce que Paco est italien, il apprend l'italien à la maman. Donc, à votre avis, quelle devient la relation, peut-être, entre la mère et Paco, sachant qu'à la fin, il a les clés de la maison et qu'il vient souvent à la maison. On peut imaginer que, peut-être, à la fin, Paco et la maman sont amoureux. Et surtout que la maman finit en disant que Paco lui apprend l'italien, que c'est une langue très difficile, et elle dit en italien, alors attention à mon accent, il bacio sulla bocca, qui veut dire un baiser sur la bouche. Donc, c'est un peu pour nous donner un petit indice de la relation entre Paco et la maman.
Paco, du coup, il trompe. Enfin, non. Du coup, la mère, elle trompe son mari.
En fait, on ne peut pas dire qu'elle trompe son mari. Et comme vous avez entendu, Nathan, il ne connaît pas son papa parce qu'il n'est pas là. Pour des questions qu'on n'est pas obligé de connaître. Du coup, en fait, sa maman, elle n'est pas forcément encore mariée avec le papa de Nathan. Le papa de Nathan, il n'est pas là. Il habite aux États-Unis. Et du coup, même s'il peut y avoir 10 000 possibilités qui font que le papa ou la maman ne soient pas là. Et en faisant ça, si c'est ça la situation, ça, il ne s'agit pas de tromper quelques-uns. En fait, on est libre de vivre. De vivre, en fait. Alors, en fait, si on trompe quelqu'un, ça veut dire qu'on est ensemble avec quelqu'un. Mais dans ces cas particuliers, ils sont pas ensemble. Le papa, il est aux États-Unis. Il a jamais connu son fils. Du coup, il a pas trompé. La maman, elle n'a pas trompé son mari. Elle a juste eu une autre relation dans sa vie.
Les enfants, merci.
Merci à vous.
horloge. Dans une église, elle faisait ding 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 près de la mairie. Ça résonnait très fort. Dans une maison, il y a une reine et un prince. Dans ce salon, elle avait si mal aux oreilles qu'elle baillait aux corneilles. Avec ses jumelles, elle regardait les abeilles, et les abeilles qui prenaient du miel. Le prince dormait, il rêvait de la mer, de la mer dorée comme le soleil. Quand il se réveille, il chante les quatre saisons et il mange une salade.
Ça y est, bien écoutez, tous les enfants sont dans le studio parce qu'aujourd'hui on va essayer une grande première, enfin en tout cas une grande première pour nous parce que là on est en direct, tous les enfants sont là, ils ont leur feuille et puis ils ont leur petit cœur qui tremble. Je vois d'ici le cœur battre sous les pulls.
Mais c'est, il n'y a rien de bien terrible, hein. Ça va très bien se passer, j'en suis sûr.
On va essayer, oui, on va s'appliquer en tout cas.
Voilà, eh bien je vous laisse la parole.
Eh bien d'accord.
Radio Carta. Radio Cartable, la radio des écoles d'Ivry.
Bonjour, il est tout juste 9h17. L'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Radio Cartable, la radio des écoles d'Ivry sur 89.4. Merci encore à Radio Libertaire de nous accueillir tous les vendredis de 9h15 à 10h15. Aujourd'hui, pour notre première émission en direct. Et oui, vous avez bien entendu, notre première émission en direct. Nous sommes 8 enfants de l'école Einstein, tous en CM2. Mylène, Isabelle, Michel, Soraya, Nassera, Clément, Toufik et moi Brice qui animons cette émission. Tout au long de cette émission, pour vous distraire et pour vous instruire, nous vous proposons de plonger avec nous dans le livre Guinness des records 90 où nous y avons beaucoup trouvé de records insolites. Au programme de cette heure, vous pourrez écouter une émission musicale qui vous informera sur la digestion. Une émission qui vous fera connaître un excellent chanteur pour enfants. Ah oui, tu as raison, c'est un des meilleurs. Ne fais plus patienter nos auditeurs. Il s'agit donc de Christian Ferrari. Il chante aussi de merveilleuses chansons pour les adultes. Ne ratez pas cette occasion de découvrir ce talentueux chanteur. Nous terminons par une émission de la série École Libris. Les enfants de 8-9 ans vous présenteront un livre qu'ils ont beaucoup aimé. Et le crayon magique, c'est l'histoire fantastique d'Émilie qui trouve un crayon qui a d'étranges pouvoirs. Isabelle, tu avais parlé de records. En as-tu quelques-uns à nous présenter? Si je te dis 40 millions d'exemplaires d'un 33 tours vendu en 1988, à quel chanteur penses-tu? Stéphanie Monaco. Mais non, je n'ai pas dit 40 exemplaires, j'ai dit 40 millions. Peut-être Dorothée? Tu plaisantes, je n'ai pas dit 4 disques. J'ai dit 40 millions d'exemplaires. Je suis certaine que nos amis auditeurs, eux, ont déjà trouvé. Donne-nous un indice. Il vit avec un boa. Ah oui, c'est Brigitte Bardot. Non, alors écoute le disque et tu trouveras. We'll be right back.
vint une belle gaillarde, épaulée comme un camion, les yeux comme des mansardes, et puis les cheveux si longs qu'on aurait dit l'autoroute qui va de Marseille à Aix. Elle mettait en déroute tous les donneurs de complexes. Elle dit je suis Gulliverte et je me sens bien, vous me trouvez grande certes, je n'en dis qu'on vient, mais vraiment mes petits hommes vous êtes charmants, vous me regardez en somme comme un monument, grande grande je suis grande, je me demande à quoi servent ces échelles, ces escabelles. Par amour ou par bravade, on en vit une flopée, entreprendre l'escalade de la belle démesurée. Mais il se perdait en route, ou bien il dégringolait, ne pouvant la saisir toute, la plupart abandonnaient. Elle dit je suis Gulliverte et vous m'épatez, je ne me suis pas offerte à vos privautés, car enfin mes petits hommes, si je vous fait peur, vous semblez ignorer comme en bas mon cœur. Grande, grande, je suis grande, je me demande comment vous faire comprendre que je suis tendre. Ils lui dirent tu es moche, mais pour qui donc te prends-tu? Tu n'as rien dans la caboche, et puis tu es mal foutu. Non, vraiment, pour rien au monde, nous ne voudrions de toi. Tu es vraiment trop immonde, tu ne nous inspires pas. Alors on vit Gulliver te sera tatinée, c'est une trop grande perte, je veux être aimée. Prenez-moi mes petits hommes, je raccourcirai, je serai comme trois pommes si cela vous plaît. Grande, grande, je suis grande, je me demande quoi faire pour qu'on me désire, et même pire. Quand elle fut assez petite, on voulut bien l'épouser, on l'engrossa au plus vite pour l'empêcher de bouger. Elle fut sans crier grâce, une admirable maman, sans un rêve qui dépasse et trompée raisonnablement. Et puis on vit Gulliverte se mettre à changer, et par la fenêtre ouverte on l'entendit chanter. Elle dit mes petits hommes, je me sens grandir, et je me retrouve comme dans mes souvenirs. Grande, grande, j'étais grande, je me demande ce qui a pu me contraindre à tant vous craindre. Elle se mit sans scrupule à s'allonger à vue d'œil, ses soupirs en minuscules durent en faire leur deuil. Malgré leurs échafaudages, leurs gradins, leurs ascenseurs, leurs chansons et leurs chantages, elle reprit sa hauteur. Elle dit je suis Gulliverte et je me sens bien, vous me trouvez grande certes, je n'en dis qu'on vient. Maintenant mes petits hommes, à vous de grandir, comptez plus que je me gomme pour pas vous ternir. Grande, grande, je suis grande, je me demande si ce n'est pas par votre faute que je suis haute. Grande, grande, je suis grande, je me demande comment vous faire comprendre que je suis tendre. Comment vous faire comprendre que je suis tendre.
Est-ce que tout est là ?
Chef, oui, chef !
Vous êtes prêts pour la visite ?
Chef, oui, chef !
Alors, direction le Fort d'Ivry pour la sortie culturelle de la semaine. Restez à l'écoute !
Chef, oui, chef !
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour chers auditeurs, nous sommes les CM2B de l'école Paul Langevin.
Et vendredi dernier,
nous avons eu la chance de visiter
le Fort d'Ivry
dans les 4 des journées du patrimoine. Dans le Fort d'Ivry, nous avons pu visiter le CPAD.
Qu'est-ce que c'est le CPAD ?
Roméo,
Natacha, le CPAD, c'est le centre d'archives et de production audiovisuelle de la Défense. Dans le cadre de cette visite, nous avons découvert un nouveau métier, militaire caméraman et militaire photographe. C'est lui qui filme la guerre pour en garder des souvenirs.
Ces archives de guerre sont constituées de photos et de films.
Nous avons donc eu un petit cours sur les techniques photographiques et filmiques.
En route pour la visite.
On est vendredi, on se dirige vers le fort d'Ivry. Personnellement, c'est la première fois que j'y vais.
C'est les journées du patrimoine. Je sais pas de ce que c'est le patrimoine.
Qu'est-ce que c'est le patrimoine ?
L'ensemble des phénomènes qui forment l'appartenance à une culture, par exemple la culture française est formée par plein de choses qui représentent notre patrimoine. Ça peut être des chansons, des monuments, des bâtiments, des vidéos ou des images, comme ce que nous allons voir cet après-midi.
On va bénéficier d'une visite guidée.
On va regarder un film sur les militaires.
Et ce film parlera de l'agence d'images de la Défense.
Vous n'étiez que des traits, des contours, des figurines gravées, des ombres sur des noms de bataille. Quand on vous racontait la plume à la main, vous n'aviez pour visage que les mots de l'auteur. Quand on vous racontait le pinceau à la main, vous portiez les masques que la légende vous avait inventés. Alors je suis arrivé avec mes autochromes lumière, mes plaques de verre, et ma pâté à manivelle. Et j'ai révélé au monde vos vrais visages. J'ai dévoilé vos grandeurs et vos misères.
On va filmer et on va photographier la guerre, et on les fait depuis 100 ans. Très précisément, on a commencé à travailler cette activité en 1915. Qu'est-ce qui se passe en 1915?
La guerre mondiale.
Laquelle?
La première.
La première, très bien. Depuis la première guerre mondiale, on va avoir des caméramans et des photographes, des soldats. Tout d'abord, ils sont des soldats avec une caméra et un appareil photo qui vont photographier et vont filmer les autres soldats en action. Et ces images vont être faites par les soldats, caméramans et photographes de l'armée. Et chaque fois, cette production va être passée à la nouvelle génération qui va continuer à faire des images et à garder ce qui était déjà fait, ce qui nous permet aujourd'hui de faire deux choses. Ici, dans cette grande fort, on va garder tout ce qui a été fait déjà, tous les photos et les films faits pendant 100 ans autour de l'action de l'armée française, ils vont être gardés ici, et en même temps, on va avoir toujours des équipes aujourd'hui qui vont continuer à produire des images. Et c'est pour ça, par exemple, les films que vous avez vus, ça retrace 90 ans de notre histoire. Même si c'était très rapide, on a vu des images des différentes époques.
Bah, en fait, ce qui est de vos missions, c'est de filmer des petites parties de guerre et de les montrer à des enfants. Ce qui s'est passé, par exemple, il y a 100 ans ou il y a 90 ans et des choses comme ça.
Vous avez vraiment filmé les guerres? Où ils faisaient semblant de par exemple, faire les morts ou prendre les armes, tout comme
d'accord.
Ça.
D'accord. Malheureusement, d'un côté, heureusement, de l'autre, on a filmé vraiment. C'est-à-dire que si on voit un mort dans les films, c'est un vrai mort. Après, on va prendre certaines choses autour de la production pendant la Première Guerre mondiale, qui fait que des fois, comme on n'a pas pu filmer directement la bataille, il faut faire semblant, il faut la rejouer. Mais la bataille a vraiment existé.
Au début, eh ben, c'était en noir et blanc, et à la fin, c'est devenu en couleur.
Parfait. Pendant la Première Guerre mondiale, on va voir des images en noir et blanc. Pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. On va toujours utiliser le même support pour filmer. Et vous allez voir que pour la photo, ça change un petit peu. Et après, on va voir la couleur. Et on va voir ce qu'on appelle la vidéo, des choses qui sont plus proches de vous. Mais on va parler un petit peu aussi de photographes. On fait pas que des films. Il faut quand même avoir des photos. Et tout ça, on les fait pourquoi? Pourquoi, à votre avis, on fait des photos et des films de chaque moment de la guerre et de chaque participation de l'armée française, pardon.
Pour dire aux gens comment ça s'est passé. Par exemple, s'il y a quelqu'un, il ne sait pas comment ça s'est passé, la Deuxième Guerre mondiale, bah,
On peut lui faire voir le film ou lui expliquer.
Bon, au sens large, ça nous permet d'expliquer, mais aussi ça nous permet de nous souvenir. On va travailler la mémoire. Les devoirs de mémoire, c'est des choses que vous travaillez en classe. Il faut se souvenir du passé pour ne pas l'oublier, pour ne pas les répéter et pour pouvoir aller au-delà. Pour les photographes, bon, vous savez bien, il doit avoir quelque chose pour prendre des photos. Qu'est-ce qu'il y a ?
Un appareil photo,
ça c'est toujours pareil. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur de l'appareil photo pour prendre des images ?
C'est très difficile à expliquer, parce qu'ils ont comme une sorte de rond, comme un tube.
Ils ont une pellicule dans leur appareil photo.
Ça fait quoi comme bruit ? Du verre. À l'époque, surtout tout au début de l'invention de la photographie, on va trouver que grâce à la plaque de verre, et bien sûr, cette couche d'image qui va permettre, avec la lumière, de fixer ce qui nous intéresse, on va avoir des très belles photos qui vont tenir très longtemps. Par exemple, ma photo ici, ça fait 100 ans qu'elle existe. Et vous voyez, aujourd'hui, je vous la montre.
La photo permet de garder une trace des conflits.
Depuis plus de 100 ans,
un peu plus tard est arrivé le film.
Le cinéma dérive de la photo. Et on peut facilement le voir sur les pellicules. Parce que, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, sur une pellicule, on a un très grand nombre de toutes petites images fixes. À la base, le principe du cinéma, c'est une série d'images fixes qu'on peut faire dérouler à une certaine vitesse, et ce déroulement nous donne l'impression du mouvement. Et donc, le film dérive de la photo. Donc ici, dans ce fort dont vous êtes, on conserve beaucoup, beaucoup de bobines en pellicule, presque 90 000. On les conserve dans des grands frigos, parce que ces films-là aiment bien être au frais, et ils n'aiment pas trop l'humidité. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, avec ce temps un peu lourd et une petite pluie, les films, ils n'aimeraient pas être dehors, parce qu'ils s'abîmeraient très, très vite. Et mon métier ici, c'est de conserver ces films pour qu'ils existent le plus longtemps possible. Et donc voilà, mon rôle, c'est de préserver le patrimoine cinématographique de l'armée française.
Je vous présente aujourd'hui l'adjudant Laurent, qui est caméraman à l'ECPAD et qui va vous expliquer ce qu'il fait, comment on travaille aujourd'hui, quels sont les risques, et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaiterez.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Donc, je me présente, je suis Laurent, je suis adjudant de l'armée de l'air et je travaille ici à l'ECPAD en tant que caméraman. Alors j'ai fait 11 ans sur une base aérienne. Avant d'arriver ici, je faisais essentiellement de la photo et j'ai demandé à devenir caméraman spécialement ici, voilà, pour aller sur le terrain. Alors mon travail, ça consiste à aller sur les têtes d'opération, là où il y a les soldats français, et les suivre au quotidien, que ce soit des missions, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou au combat. Pour vous donner un exemple, je suis rentré fin mai de l'opération Barkhane, donc j'étais un peu au Tchad et un peu au Mali, voilà, pour exercer mon travail. Au niveau de mon travail, donc je ne suis pas tout seul, bien évidemment. Je suis avec un autre opérateur qui est photographe, qui exerce le même travail. Et on a un chef d'équipe qu'on appelle l'officier image, qui est officier, et qui est là pour nous encadrer et assurer notre sécurité au besoin. Ensuite, j'ai bien évidemment ma caméra vidéo. Voilà. Donc, caméra moderne, c'est un format volontairement choisi assez petit, mais pas trop. On reste dans une gamme professionnelle. On enregistre évidemment sur des cartes mémoire professionnelles, S-by-S.
Ce n'est plus la pellicule.
Voilà, c'est fini. Les pellicules, les cassettes, vous n'avez déjà pas connu. Donc, voilà, on est en numérique, en HD. Donc la caméra, elle pèse 6 kg. Et après, bien sûr, on est habillé comme tous les autres soldats. On est soldat. On a un casque. On a un gilet pare-balles. On a de l'armement.
Comment vous faites pour vous battre?
Alors moi je me bats pas. Enfin si je me bats, mais avec ma caméra.
Voilà.
Ça c'est mon outil de travail. J'ai un fusil d'assaut. J'ai un fusil d'assaut comme tout le monde, sauf que je l'ai dans le dos ou devant. Et souvent, le plus souvent du temps, je suis comme ça avec ma caméra et je fais des images. Je filme les soldats qui évoluent et qui soit font des reconnaissances, des patrouilles, soit ben, on tombe sur quelque chose, on est au combat et ça tire et je continue mon travail, les soldats font pareil. Mon travail, c'est de montrer ce qui se passe, de montrer la réalité de la situation en opération. Ça permet voilà, d'avoir une approche objective de toute la situation sur le terrain.
Le caméraman de l'armée est habillé comme les militaires.
On a vu des gilets barbares, un casque, une caméra pour le caméraman.
C'est important de voir l'histoire de d'autres pays.
Le passé, ça influence l'avenir.
Le passé peut nous aider à grandir et que plus on connaît des choses et on apprend, et plus on peut grandir.
Je pense qu'il y aura des guerres parce que dans certains pays, ils ne s'aiment pas et ils peuvent s'attaquer. Donc je pense qu'il y aura des guerres.
Ça m'a surpris que oui, que le caméraman soit un soldat ou le photographe, parce que moi je pensais qu'un photographe, basiquement c'était pas ça, ça allait pas à la guerre.
Je trouve que c'est bien de garder des souvenirs d'avant de nos héros et du passé, parce qu'on peut avoir le choix de ce qu'on veut être.
De Simon le limaçon, il s'en va dans la terre, n'a pas le temps de jouer. Autant de choses à faire, prenne bien la journée.
Oh, 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 Simon, attends-moi, tu vas bien trouver pour moi. Oh, 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 Simon, attends-moi, tu vas bien trouver pour moi.
C'est l'histoire de Léon le papillon. Il s'en va sur les fleurs sans trêve ni repos. Il s'en va à toute heure, toujours prêt au boulot.
Oh, 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 Léon, attends-moi, tu vas bien trop vite pour moi. Oh, 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 Léon, attends-moi, tu vas bien trop vite.
De Gaston le caneton.
C'est l'histoire de Gaston le caneton.
Il s'en va sur la mare, ne peut pas s'amuser. Il va être en retard, il doit se dépêcher.
Oh, 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 Gaston, attends-moi, tu vas bien trop vite pour moi. Oh, 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 Gaston, attends-moi, tu vas bien trop vite.
De Raymond le hérisson.
C'est l'histoire de Raymond le hérisson.
Il s'en va en forêt, il faut bien s'amuser. Une route à traverser ne va pas l'arrêter.
Oh, 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 Raymond, attends-moi, tu vas bien trop vite pour moi. Oh, 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 Raymond, attends-moi, tu vas bien trop vite.
Cartable.
c'est charmant et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements. Et en amour, on vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafio, la société c'est pas de la tarte. Et en amour, peut-être qu'un jour le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption est tout paquet et viendra gueuler dans nos ruines. Y en a marre, y en a
always dawning. I could have told him that he'd be resting on my mind. He stays on my mind. He stays on my mind. I could have told him that another time, another place, maybe later. Oh, I'm gonna love you better. Right, wrong, already. Right, wrong, already. If he's right, wrong, already, he stays on my mind. I could have told him that a man pays his own dues for his own crimes and his own bed for his own woman. Right, wrong, already. Right, wrong, already. He stays on my mind. He stays. Love light always dawning. I could have told him that he'd be resting on my mind, but he stays on my mind. If he's right, wrong, already, he stays on my mind. He stays on my.
Des Cadillacs et des ombrelles, de l'albuplaste et des bretelles, de faux dollars, de vrais bijoux, il y en a vraiment pour tous les goûts. Des oraisons pour dentifrice, des chiens nourris qui parlent anglais, et les putains à l'exercice avec leurs yeux qui font des frais, des faux tableaux qui font la gueule, et puis des vrais qui leur en veulent. Des accordéons déployés qui soufflent un peu avant de gueuler, des filles en fleurs, des fleurs nouvelles, des illustrés à bonnes d'enfants, et des enfants qui font les belles devant des mecs bourrés d'argent. Les vitrines de l'avenue
font un vacarme dans les cœurs à faire se lever le bonheur. Des fois qu'ils pousseraient dans les rues les faux poètes qu'on affiche et qui se meurent à les mystiches, les vedettes à faits divers, paroles de Jacques Prévert. Les prix Goncourt que l'on égorge, les gorges chaudes pour la voix, les coupe-fils et les soutiens-gorges, avec la notice d'emploi, les chansons mortes dans la cire et des pick-up pour les traduire. Micro-sillon baille aux corneilles, c'est tout Mozart dans une bouteille, le sang qui coule plein à la une et qui se caille aux mots croisés. François, le monde et la fortune devant des mecs qui n'ont pas bouffé. Les vitrines de l'avenue font un vacarme aux alentours à faire se lever l'amour. Des fois qu'on vendrait au surplus des Pères Noël grandeur nature qui ne descendent plus que pour les parents pendant que les gosses jouent les doublures en attendant d'avoir 20 ans. Toupie qui tourne au quart de tour, bonbons fondant, bonheur du jour, et ces mômes canons plein les bras, lécher la vitrine comme ça, des soldats de plomb qui font du zèle, des poupées qui font la vaisselle. De drôles d'oiseaux en équilibre pour amuser les tout-petits. À l'intérieur, la vente est libre pour ceux qui s'ennuient dans la vie. Des merveilles qu'on veut pas toucher devant des mecs qui peuvent rentrer. Les vitrines de l'avenue font un vacarme dans les yeux à rendre aveugles tous les gueux. Des fois qu'ils en auraient trop vu. Jambon d'York, garantie Villette, des alcools avec étiquette, crème à raser les plus coriaces, où l'on m'étend le poil se lasse. La gaine qui fond sous les caresses, le slip qui rit, le bac en caisse, l'escarpin qui use le pavé, les parfums qui sentent le péché, des falbalas pour la comtesse, des bandes en soie pour pas que ça blesse. Du chinchilla, de la toile écrue, il faut vêtir ceux qui sont nus. Des poules au vert si vrai qu'ils bêlent, des vins si vieux qu'ils coulent gaga, des décorations qui étincellent devant des mecs qui n'en veulent pas. Les vitrines de l'avenue, c'est mes poches à moi quand je rêve et que j'y fouille à main perdue. Des lambeaux de désir qui lèvent.
Your eyes don't shine like they used to shine, and the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so is love. Your words don't mean what they used to me. They were once inspired, now they're just routine. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so is love. I guess I'll have to play Pagliacci and get myself a clown's disguise and learn to laugh like Pagliacci with tears in my eyes. my heart.